Dans les hôpitaux normaux, il y a 2 par chambre. Pourquoi dans les hôpitaux psychiatriques, il y a 3 par chambre? Des fois, 4 par chambre. Pourquoi? Parce que c'est des personnes fous, parce que c'est des personnes vulnérables. Et ça me désole.
Abdel est le papa d'un jeune schizophrène, soigné depuis plus d'un an à l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens. Il ne comprend pas qu'il y ait autant de patients par chambre et il n'est pas le seul à faire ce constat. Au sein de cet hôpital, une partie des soignants est en grève depuis le 15 juin dernier. Ils protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail, fermeture d'unités, effectifs d'infirmiers et de médecins insuffisants, l'impression de faire du gardiennage plus qu'un véritable suivi psychiatrique.
C'est horrible, ça nous rappelle quelque chose qui tient du carcéral en fait.
Pour sortir de l'impasse, les grévistes demandent l'embauche de 60 soignants. Ils sont soutenus dans leur combat par leurs patients.
Mais ils font ce qu'ils peuvent. Il manque des gens adaptés, des travailleurs adaptés aux handicaps.
La situation à l'hôpital Philippe Pinel est loin d'être un cas isolé. Ces derniers mois, les grèves se sont multipliées dans les hôpitaux psychiatriques. Les causes sont anciennes. En 20 ans, plus de la moitié des lits disponibles en psychiatrie a fermé. Ce n'est pas exclusivement une question d'économie, c'est aussi un choix politique et médical de privilégier la prise en charge hors de l'hôpital, en ambulatoire. Interception a rencontré les différents acteurs de la psychiatrie à l'échelle d'un département, la Somme. Tous témoignent d'un secteur en crise. Cette crise concerne beaucoup de monde, puisqu'en France, une personne sur 5 est touchée par une maladie mentale. Mon hôpital psy va craquer. C'est un reportage de Vanessa Descoureaux.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Ouais, bon courage. Ça a été la même année dernière, c'est tout ?
Non, ça a été.
Ça n'a pas trop réussi ?
Bah, un peu, mais bon. On fait avec. Allez, sur ce.
Bah, bon courage à toi, Marie.
Ouais, et puis bon, on se tient au jus ?
Ouais, ça roulait.
Vous êtes bien en forme pour quelqu'un qui vient de finir sa nuit de travail.
Ah, j'ai l'habitude. Ça fait 18 ans que je suis infirmière, mais je fais des nuits très très régulièrement. Et c'est un rythme qui me convient bien en fait.
C'était comment cette nuit ?
On a eu du boulot. Après, ça a été une nuit correcte.
C'est quoi une nuit correcte ?
Bah, c'est des patients qui vont pas être réveillés par l'angoisse la nuit. C'est des patients qui vont pas être réveillés par des idées suicidaires. Pour quelqu'un de nuit, quand on dit que c'était une bonne nuit, c'est que tous nos patients ont bien dormi. En attendant, c'est pas la nuit qui pose vraiment problème sur l'institution, quoi. C'est clairement la journée, quand vous êtes à 2 soignants et que vous avez 26 patients, que vous avez, nous, le choix de notre hôpital, ça a été de mélanger les pathologies. Du coup, ça nous amène à des situations un petit peu folles des fois, où bah, vous avez des chambres de 2 lits qui sont transformées en 3 lits, et sur ces 3 lits, vous allez avoir 3 types de pathologies complètement différentes.
Dans une même chambre.
Dans une même chambre.
Dans un tout petit espace.
Dans un tout petit espace.
Avec des pathologies plus ou moins lourdes.
Voilà,
mélangées.
C'est ça. C'est ça. Vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui va venir chez nous pour un syndrome dépressif ou un burn-out, hein, ce à quoi on peut tous être confrontés dans sa vie, qui vont être dans la même chambre qu'un psychotique en phase aiguë, en phase de décompensation, donc un psychotique complètement délirant et halluciné, et avec au troisième lit un petit monsieur qui est en début de démence. Donc à 26 patients, nous, on voudrait être 4 pour pouvoir faire du vrai travail psychiatrique. Là, à 2, ce que vous faites, c'est vous assurez qu'au niveau des soins d'hygiène, c'est fait, vous vous assurez qu'ils aient tous bien mangé, vous vous assurez tous qu'ils prennent leur traitement. Et au final, notre vrai soin psychiatrique, qui est vraiment la parole, le temps d'activité thérapeutique, la médiation thérapeutique, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment plus du tout les moyens de faire.
Alors, il faut quand même savoir que Philippe Pinel, hein, puisque l'hôpital ici à Amiens porte ce nom, est l'un des pères de la médecine mentale. À la fin du XVIIIe siècle, ce médecin a fait changer l'approche qu'on avait, comme on les appelait à l'époque, des fous. Il en a fait des malades qu'il convenait donc d'écouter et de soigner.
En lutte, il y a Lucien qui est passé déposer des tracts. Ah, ils sont là, c'est super. Alors, je disais qu'on était tellement, tellement populaire à Amiens qu'on pouvait se permettre des trucs comme ça, de déposer des tracts au passage et puis.
Parce que je peux quand même vous de combat, c'est un très autre combat peut-être que je
Ben, merci beaucoup en tout cas pour votre aide. Hein. Ça nous sauve, parce qu'on était bien embêtés avec ces tracteurs-là.
Il y en a combien là, de tracts ?
Là, il y en a 1200. Alors maintenant, il faut que je trouve un massicot pour les couper. Mais je vais trouver ça. Hein. On va s'en occuper. Je vais bien les fermer pour pas qu'ils prennent la flotte.
Isabelle Massé, on ne me dirait pas, mais votre métier est psychologue. Hein.
Oui, c'est ça. Je suis psychologue. Bon, là, je suis un peu. Voilà, entre midi et deux, je suis plutôt militante, ou en tout cas combattante, mais voilà. pour l'instant, je suis psychologue. Merci encore. Hein.
Au revoir. Je vais regarder le message.
Salut.
Au revoir.
Bon, et ben ça c'est fait. Moi, en tant que psychologue, c'est vrai que j'ai pas la même temporalité. Je suis peut-être un peu moins touchée par ce qui se passe, mais quand j'ai vu mes collègues et les patients souffrir comme ça, il a fallu que j'en fasse quelque chose. Quoi.
Dans votre univers, il n'y a pas que des professionnels de la psychiatrie, il y a aussi des gens autour de vous qui ne travaillent pas du tout dans ce secteur. Comment ils réagissent justement devant la cause que vous essayez de défendre ?
Alors ça a été très impressionnant parce que pour moi, la psychiatrie, c'était quand même quelque chose de tabou. C'est un lieu, l'hôpital psychiatrique, d'ailleurs on le sait, hein, il a été construit à l'écart des villes au 19e, parce qu'il ne fallait pas que ça contamine presque. Hein. Il y avait quelque chose comme ça, une espèce de misère psychique là qui ne concernait pas la cité. Et alors bon, maintenant c'est vrai que la ville a rattrapé l'hôpital puisqu'on a une zone commerciale. Enfin, la ville s'est étendue et l'hôpital est dans la ville, un peu en périphérie, mais dans la ville quand même. Et donc j'avais quand même toujours cette idée que la psychiatrie, ça ne concernait que les malades ou que les familles, mais que les personnes concernées. Et en sortant dans la rue, quand on a décidé d'aller tracter, d'aller rencontrer les habitants et de leur faire part des difficultés de l'hôpital, j'ai été mais vraiment très étonnée de voir à quel point notre combat concernait tout le monde. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens dans la rue qui me disaient, bah écoutez, bon moi j'ai jamais eu affaire à la psychiatrie, hein, mais quand même cet hôpital psychiatrique, il est important dans la cité, il est important dans la ville, ça pourrait m'arriver demain, peut-être que demain je peux faire un burn-out, on parle beaucoup du burn-out en ce moment. Donc il y avait des gens qui disaient, moi peut-être qu'un jour j'aurai besoin de vous et je voudrais pas me retrouver dans une chambre à trois lits, dans des services comme ça, suroccupés, et ce qui vous arrive c'est terrible et ça m'implique.
Est-ce que la crise de la psychiatrie finalement n'est pas un mal pour un bien dans le sens où elle sort la psychiatrie de la stigmatisation légendaire.
Oui, oui. Alors, notre mouvement et ceux des autres collègues dans les autres villes ont vraiment mis la lumière sur la question de la psychiatrie. Bah oui, on n'est pas tous des super-héros et qu'on a, en tant qu'humain, en tant que sujet, on a des défaillances et que ces défaillances sont intégrées dans la pensée sociale. On doit en tenir compte et on ne peut pas les planquer, les mettre dans un asile, fermer les portes et les oublier.
Nous sommes à l'intérieur de cet hôpital Philippe Pinel. C'est un immense parc de 34 hectares, entouré de bâtiments en briquettes rouges. Il fut un temps où la moitié gauche de ces bâtiments était réservée aux hommes, la moitié droite était réservée aux femmes. Au milieu, il y a une énorme chapelle qui accueille les visiteurs, une fois le portail, une fois la porte principale franchie. Et il y a également des lieux de vie pour les malades. Il y a un café, par exemple. Il y a aussi un salon de coiffure, mais tout ce qui est à l'intérieur de ces murs nous est interdit d'accès.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Je vais passer après.
Vous allez là-bas ?
Ah non, on vous retrouve après un peu de repos, après votre nuit de travail. Est-ce que parfois ce sous-effectif chronique, cette suroccupation des chambres, vous conduit à peut-être utiliser l'isolement plus que de raison ?
Effectivement, la suroccupation des lits, le manque d'effectifs, tout ce que ça peut générer en termes d'agressivité, en termes d'angoisse pour le patient, nous amène à, oui, plus nous servir de tout ce qui est système de contention ou des chambres d'isolement.
C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'un lit, par exemple, vous trouvez la chambre d'isolement qui est la seule disponible, ça peut devenir un lit ?
Malheureusement, oui.
Alors que cette personne
ne nécessite pas forcément une chambre d'isolement ou d'observation. Au même titre, on a des patients qu'on doit isoler de façon ponctuelle dans ces chambres d'isolement, qui, une fois que leur symptomatologie est stabilisée, nous n'avons plus leur lit pour les sortir de chambre d'isolement.
C'est-à-dire que la personne va rester plus longuement que prévu.
Voilà, tout à fait.
En isolement.
Tout à fait.
Parce qu'il n'y a pas de lit en
parce qu'on n'a pas d'autre place. Voilà, et ça c'est dramatique. Ça c'est dramatique. Les contentions, les soins et les mises en isolement doivent être des soins extrêmement ponctuels dans une phase aiguë de la pathologie, en fait. Si, au final, on détourne ces soins qui sont de type soins intensifs, c'est ce qu'on pourrait appeler les soins intensifs psychiatriques, on perd de notre cohérence dans la prise en charge des gens en intra-hospitalier.
Ouais. Et là, on se sent comment ?
Bah, c'est horrible. C'est horrible, ça nous rappelle un... quelque chose qui tient du carcéral, en fait. Et nous, effectivement, on doit être dans le soin, dans la communication, dans l'humanité. Et c'est extrêmement déshumanisant pour nos patients de rester en chambre d'isolement, d'autant plus quand ils ne le nécessitent pas, quoi. Que le patient soit mis en chambre d'isolement quand il est en phase aiguë, quand c'est quelqu'un d'extrêmement délirant, quand il y a un risque de dangerosité envers lui-même ou envers autrui, c'est effectivement tout à fait adapté. Quand vous maintenez l'isolement ou la contention pour quelqu'un qui va mieux, bah c'est le risque aussi de régénérer à nouveau de l'angoisse, de l'agressivité, une tristesse de l'humeur et des agitations, en fait.
Contention, c'est donc le patient maintenu attaché à...
Voilà, c'est ça. C'est les contentions physiques, effectivement. Donc, c'est le patient qui est, normalement, de façon ponctuelle, contentionné donc au lit pour éviter que le patient se blesse lui-même ou blesse autrui.
Que l'hôpital s'est fait pour soigner. Patient, comment vous dire, je suis désolé. Ils ont voulu clairement nous négliger. Et nous, comme des teubés, on disait ok. Mais tous les jours, on pense à lutter. La RSA finit par nous déloger. Mais on n'a rien lâché. On est soignant, on va y arriver.
Macron, Buzyn, qu'est-ce que vous voulez? La santé n'est pas à brader. Pense à Brigitte, elle yoyoté. J'espère que les infirmiers sont motivés. Macron, Buzyn, qu'est-ce que vous voulez? La santé n'est pas à brader. Patient, patient, je suis désolée. Car on n'arrive plus à vous soigner.
Je m'appelle Priscilla Warmé, je suis infirmière au centre hospitalier Philippe Pinel depuis 2011. Le sentiment quand on rentre à la maison, après, comme je vous le disais, c'est très interpersonnel parce que. Enfin, moi, j'ai ce que j'appelle des facteurs protecteurs. J'ai ma famille, j'ai mes enfants qui sont tout petits, qui n'y sont pour rien, qui n'ont pas encore conscience de ce que je fais au quotidien. On est deux à travailler sur l'hôpital, donc on vit les mêmes choses au quotidien. Ça aussi, c'est important parce que l'autre comprend ce qui se passe. Donc, on est obligé un peu d'avoir une grande séparation entre le moment où on passe la grille et le moment où on est à la maison parce qu'on essaye de pas tout ramener. Il y a des jours où c'est pas possible, où on arrive, on est très tendu, on est très énervé, on est agacé, on est en colère, on est un peu tout ce que vous voulez, on est aussi très triste. Du coup, ben, y a des petites tensions aussi à la maison parce qu'il y a moins de patience, on est extrêmement fatigué, on n'a pas envie de faire certaines choses. Et bon, ben, voilà, dans la famille, y a des moments où il faut un petit peu y mettre du sien. Sauf que quand on a déjà tout donné, c'est difficile d'y mettre du sien ailleurs. Il y a une sorte de nuage de souffrance au-dessus de cet hôpital, que ce soit de la part des soignants que des patients, et qui rend l'ambiance assez difficile, ouais.
Moi, je la vois, mais les auditeurs l'entendent, votre émotion dans votre voix. Mais vous n'avez pas envie de faire autre chose à un moment ?
J'y ai déjà pensé. Après, moi, je suis rentrée à l'école d'infirmière pour faire de la psychiatrie.
Ah, c'était dès le début votre choix ?
Je suis rentrée à l'école dans le but de faire de la psychiatrie. J'ai eu, à un moment, oui, envie de faire autre chose. Quand dans ma vie, voilà, les choses ont fait que bah, ça va moins bien, justement. Et on se dit, bah, à quoi bon se tourner le cerveau dans tous les sens parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on avait à faire dans la journée, qu'on n'a pas pu le faire correctement. C'est un choix que j'avais envisagé, mais auquel j'ai vite... Je me suis vite résignée à ne pas le prendre, cette décision, parce que je ne me vois pas faire autre chose. Mais vraiment, c'est quelque chose qui parfois me revient en tête. Et puis finalement, j'en viens à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire ? De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Que ça. J'ai pas de réponse.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Bonjour et et bienvenue au centre hospitalier Philippe Pinel. Nous nous excusons de cette légère attente.
Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Madame Descoureaux.
Monsieur Elio Mélis.
Oui, tout à fait.
Directeur de l'hôpital Philippe Pinel.
Du centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens, oui.
Alors, avant de commencer, techniquement parlant, l'interview, il faut préciser que c'est vous qui avez insisté pour que l'entretien soit réalisé au téléphone, alors qu'il y a quelques jours, j'étais pas très loin de votre bureau. Pour quelle raison, d'abord, pour commencer ?
Mais il y a quelques jours, j'étais pas là.
J'ai vu votre voiture, monsieur, passer.
Ah oui, mais ma voiture, c'est pas pour autant que je la guide et je la conduis toujours. Et puis, je souhaitais davantage prendre du temps par rapport à ça.
Alors, quelle est la conclusion du temps que vous vous êtes donné, alors ?
Mais celle de pouvoir échanger avec vous, madame.
D'accord. Alors, un tiers des lits, 4 services ont été fermés à l'hôpital Philippe Pinel ces 4 dernières années. Est-ce que finalement tout ça n'est pas allé trop vite ?
Ce mouvement qui vise à réduire le nombre de lits d'hospitalisation complète, au sein des hôpitaux psychiatriques comme au sein d'autres hôpitaux d'ailleurs, afin de développer les prises en charge dans les structures en ville, est un phénomène qui n'est pas nouveau. Il n'est ni nouveau à l'hôpital, ni à l'hôpital Pinel en général.
Fermé pour déployer, en résumé, c'est ça la philosophie, pour redéployer.
L'idée, c'est que nous voulons effectivement bien distinguer le fait qu'un patient, dans sa phase aiguë de sa pathologie, puisse effectivement bénéficier, dans le cadre d'un parcours patient, d'une prise en charge spécifique au sein de l'hôpital. Mais l'idée, c'est que dès lors que son projet de soins est terminé, il puisse être inclus dans la ville et que son alliance thérapeutique puisse être poursuivie hors de l'hôpital. Voilà, c'est l'objet en tout cas de l'accentuation du virage ambulatoire.
La survie de l'hôpital passe par une meilleure prise en charge hors de l'hôpital, en résumé, hein, assez succinct.
Je ne sais pas si vous parlez de survie de l'hôpital, en tout cas l'hôpital...
Le mieux-être de l'hôpital au minimum.
En tout cas, son adaptation, puisque l'hôpital c'est une structure vivante, hein, elle est faite d'hommes et de femmes qui répondent justement à des besoins de personnes qui sont souvent dans la détresse et la difficulté, notamment des patients qui relèvent donc de troubles psychiques. Et la nécessité pour un hôpital, c'est effectivement de s'adapter. C'est d'ailleurs l'expression même du travail du soignant. Le soignant, c'est une personne, en tout cas un professionnel, qui s'adapte constamment aux patients. Hein. Mais on est dans cette période-là où la nécessité de nous adapter, non pas au plus bas, mais de réfléchir sur comment on peut ensemble trouver des moyens plus structurés, est une réalité.
Le personnel soignant est soumis à un strict devoir de réserve. Il lui interdit de diffuser des sons ou des vidéos des patients hospitalisés. Peu de voix, donc, peuvent publiquement témoigner. C'est pourtant ce qu'ont pu faire l'an passé des députés locaux, au terme d'une visite âprement négociée, François Ruffin pour la France Insoumise et Barbara Pompili pour la majorité parlementaire.
On ne se rend compte que quand on voit rien. Et surtout pas des tableaux ou des écrits ne remplacent ce qu'on voit. Et donc, quand je suis sortie de cet hôpital, je me suis dit, il faut absolument que je témoigne. Aujourd'hui, en faisant des économies sur l'hôpital psychiatrique et sur la psychiatrie en général, ce qui arrive, c'est qu'on ne soigne plus. Parce que pour soigner, il faut des personnes.
Nous avons rendez-vous avec Sylvette Chevalier et sa fille Claire, qui est traitée pour des troubles neurologiques qui donnent à peu près tous les symptômes d'une psychose. Le parcours de soins de Claire est assez lourd puisqu'il remonte à il y a déjà 30 ans. Et avec elle, on va précisément voir ce qui a changé sur ces 30 dernières années pour mieux comprendre, pour mieux mesurer ce déclin de l'offre de soins psychiatriques.
Bonjour.
Et bonjour. Vous allez bien ?
Ça va, vous avez trouvé facilement ?
Sans problème. Enfin, mon GPS a trouvé facilement.
D'accord. Bien, entrez. On se met là ? Mon mari va nous préparer un café.
La première fois que Claire a été hospitalisée, par exemple, comment ça s'est passé à l'époque ? Quels soins lui étaient proposés ?
À l'époque, surtout, ce dont on se souvient, c'est qu'il y avait un service d'ergothérapie au sein du service d'accueil. L'après-midi, Claire pouvait faire des travaux manuels et c'était très important pour elle de pouvoir s'exercer à faire des belles choses.
Claire ?
La gymnastique, l'ergothérapie, le macramé. J'ai du mal à me souvenir.
C'est quand même des bons souvenirs ou...
Oui, c'est des bons souvenirs. C'était dur pour moi de faire la gymnastique parce que le sport et moi, ça fait deux.
Mais il y avait des activités proposées.
Oui, il y avait des activités proposées, heureusement.
Est-ce que ça a toujours été le cas?
Il y a des hospitalisations, j'étais pas en état de faire des activités, donc ils m'ont pas fait faire d'activités.
Sylvette, est-ce que c'est toujours une question d'état ou est-ce qu'aussi, vous avez vu, vous, l'offre de soins décliner?
Quand il y avait une rechute ou un risque de rechute, à l'époque, nous avions des visites à domicile. C'était vraiment très appréciable parce que ça permettait de pallier à une éventuelle hospitalisation qui est toujours éprouvante, bien sûr. Et par la suite, on n'a plus jamais connu les visites à domicile.
Aujourd'hui, personne ne vient ici à domicile.
Non. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Il manque des gens adaptés, des travailleurs adaptés aux handicaps, qui peuvent aider le malade. S'il est souffrant, parler...
C'est ça le cœur des soins, c'est de discuter, de prendre le temps de parler.
Résoudre les problèmes que j'ai dans la tête. De toute façon, c'est ce que je recherche quand je vais là-bas, c'est pouvoir parler, pouvoir discuter, relâcher tout ce qu'il y a dans la tête et qui ne va pas en fait. Parce que j'ai pas seulement la maladie, j'ai aussi des problèmes. Je vois des fantômes. Je vois apparaître mon grand-père. Je comprends pas trop pourquoi j'ai ces choses-là. Alors, s'il faut en plus gérer les morts qui apparaissent.
Je vous laisse, Claire ?
Ouais.
Vous êtes fatiguée ?
Ouais. Ces médicaments qui cassent, mais aussi la maladie qui enlève les énergies.
Salut.
Bonne continuation.
Merci beaucoup.
Et rendez-vous encore cet après-midi, demain.
Encore demain. Et après, je retourne à Paris.
D'accord. C'est le chat du voisin.
Les hospitalisations ne représentent pas la majorité des soins psychiatriques. Ce sont à l'inverse les soins ambulatoires. 2 millions de personnes sont concernées contre 400 000 hospitalisations. Et pour ces soins-là, pour ce suivi-là, les pivots du dispositif, ce sont les CMP, les centres médico-psychologiques. C'est le maillon essentiel dans la chaîne de la psychiatrie. Et nous allons dans le CMP de Péronne, c'est toujours dans la Somme, à l'est d'Amiens.
Là, on va recevoir un patient psychotique qui a une histoire très compliquée du fait d'une schizophrénie qui s'était déclarée. Entrez. Asseyez-vous. Bien. Asseyez-vous comme d'habitude, monsieur.
Merci.
Bien.
Samedi, je suis allé à un baptême. Et puis hier aussi.
Baptême de qui ?
Le baptême d'une petite nièce.
Donc ça s'est bien passé avec toutes ces personnes. Il n'y a personne qui a fait une question bizarre, une remarque désagréable.
Non, il n'y a personne.
Vous êtes vraiment content.
Ouais. D'accord.
Comment ça va la nuit, le sommeil?
La nuit, ça va.
Ça va?
Ouais. Je prends mon cachet à 8h30.
Oui.
Et puis pour 9h, je dors.
Et le matin, vous êtes réveillé à quelle heure?
Le matin, à 5h30, je suis réveillé.
Ça, c'est votre heure habituelle, ça?
Ouais.
Et qu'est-ce que vous faites là quand vous...
Je me lève.
Oui.
Je déjeune. Je vais prendre ma douche.
C'est bien.
Et puis après, je descends vers 7h30.
D'accord.
Je vais boire un café à la maison associative.
Oui.
Et puis après, je viens ici.
D'accord. C'est très bien.
Non, sinon la santé, ça vaut.
Ça va la santé?
Ouais.
Bon, alors là, je vous ai fait votre traitement. Nous avons rendez-vous déjà prévu le 26 novembre.
Oui.
Une bonne journée.
Au revoir, docteur.
Au revoir.
Au revoir, madame.
Au revoir, monsieur.
Bonne journée.
Au revoir.
Bonne semaine, docteur.
Merci, à bientôt.
Moi, je suis le docteur Azedine Saïd. Azedine est mon prénom. Je suis psychiatre depuis un certain nombre d'années. Ici à Péronne, ça va faire 3 ans que je suis revenu ici.
Qui vient consulter ici dans un CMP comme celui de Péronne?
Tous les citoyens. L'incidence et la prévalence de la dépression, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Déjà, ce sont des chiffres importants, des pourcentages importants. Il y a aussi les problèmes de nombre de patients et patientes par rapport à leurs conditions de travail, il y a des burn-out, il y a des harcèlements, La psychiatrie, c'est vraiment un observatoire de la société.
Et elle va comment, la société, en ce moment?
Moi, je suis de nature optimiste, mais la société va très mal.
Et la psychiatrie, elle, comment elle va?
Comment vous dire? La psychiatrie fait ce qu'elle peut. Je dirais même qu'elle fait beaucoup.
Avec peu.
C'est exactement ça.
Merci docteur, je vous laisse parce que vous avez d'autres rendez-vous et comme vous êtes connu pour ne pas être en retard,
je vais essayer de maintenir
cette légende.
Alors ça, c'est vrai que j'ai un fonctionnement comme ça et que moi-même je vais consulter ou je vais à un rendez-vous, je suis toujours en avance.
Au revoir. Au revoir, madame.
Donc je m'appelle Franck Malric, je suis cadre de santé pour le service de psychiatrie, donc je suis aussi cadre de pôle, bon ça c'est un titre particulier. Je gère le fonctionnement de l'ensemble des structures du secteur de psychiatrie, qui est un secteur qui comprend 80 000 habitants approximativement.
Ici à Péronne, pour avoir un premier rendez-vous, il faut à peu près 1,5 mois d'attente, 6 mois à Amiens. Donc ça veut bien dire effectivement que les CMP sont engorgés ou en voie d'être engorgés comme c'est le cas ici. Est-ce que c'est pas le cœur du problème? Puisqu'en théorie, ici, on doit diagnostiquer au plus vite.
Si, c'est un véritable problème. Après, je pense que c'est aussi un choix de structure. On est à 11 000 consultations par an, quoi, approximativement. Et en fait, ce nombre de consultations qui est quand même très important est le seul moyen pour nous d'éviter l'engorgement de l'hospitalisation temps plein et du coup qui nous permet de pas trop passer à travers par rapport à certaines prises en charge. En même temps, on a une capacité de réponse qui nous permet de dédramatiser assez rapidement les situations et d'avoir vraiment un recours à l'hospitalisation quand ça s'avère nécessaire, quoi.
On l'a compris, hein, y a beaucoup de poids qui pèse sur les épaules de ces petites structures que sont les CMP. Avec quels moyens humains vous tentez de travailler au mieux au quotidien?
Alors ça, c'est compliqué parce qu'on est au niveau médical, on n'est pas trop mal doté. Au niveau paramédical, on est très très mal doté. On a actuellement 26 infirmiers pour faire tourner donc un service de 19 lits plus 3 CMP et 3 CATTP.
Il vous faudrait combien de postes en plus dans un monde idéal?
Alors ça, c'est la grande question, parce que moi, je dirais que 6 à 10 infirmiers serait l'idéal dans le fonctionnement.
En plus.
Mes infirmiers vous diront qu'il en faut au moins 2 fois plus. Je pense que plus on est nombreux et plus c'est difficile de travailler de façon cohérente, parce que plus c'est dilué, plus on pense que l'autre va le faire et du coup, on le fait pas. Notre dynamique tient aussi du fait qu'on soit très peu nombreux.
Franck Malric, ça fait combien d'années que vous travaillez dans ce secteur au niveau de la psychiatrie?
Alors moi, ça fait 30 ans que je travaille en psychiatrie. Quand je suis arrivé dans les années donc fin 80, début 90, j'entendais parler de démographie médicale, de problèmes de la démographie de la psychiatrie. Et en 30 ans, il s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que la catastrophe annoncée arrive tout doucement. On est devenu des plateaux techniques, on est devenu des établissements qui vendent du soin, mais on n'est plus là pour accueillir les gens, quoi. Là, on va passer la porte, on change d'univers, on passe du CMP au CATTP.
CATTP pour Centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Les soins sont orientés vers des activités du lien social.
Donc on arrive dans une structure qui est donc une structure d'accueil. Donc on va rencontrer des gens qui sont là, pas forcément pour faire une activité, mais qui sont venus parce qu'ils sont moins seuls ici et qu'ils peuvent discuter avec des gens.
Allons-y.
Allons-y.
Allez.
Bonjour.
Bonjour Franck.
Ça va ?
C'est Franck.
Oui, toujours. Monsieur Thibault.
Bonjour Franck.
Ça va ?
Bonjour.
Ça va,
bonjour monsieur.
Ça va ? Excusez-moi madame.
Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Bonjour madame.
Comment vous vous appelez ?
Charline.
Charline, et vous venez depuis combien de temps ici ?
Ça fait un an madame. C'est pour ma dépression, être en contact des gens, c'est très bien. Et mon mari est décédé. Mais j'en faisais déjà un petit peu avant que mon mari décède.
Qu'est-ce que vous faites ici ?
On va aller faire de la gym, là, avec Bénédicte.
Vous n'êtes pas toute seule ?
Non, voilà. Avec des amis, on se fait des copains-copines.
Et ça, ça fait autant de bien au moral que les médicaments ?
Oui, oui, je crois. Hein. Ça joue quand même.
Alors, on se déchausse. Alors, qu'est-ce qu'on met ce matin ?
Du Frédéric François.
Ça vous convient ?
Ah oui,
ah ouais, là, c'est du Frédéric François. Ça.
Voilà, allez, on va se chauffer. Vous êtes déchaussé ?
Il y a longtemps, regarde. On t'attend maintenant. Et la dame, elle t'attend aussi.
J'ai tout mon temps.
Voilà. On est debout, monsieur Thibault. On y va ? Allez, on s'échauffe un petit peu. Alors, Stéphanie, là derrière. On fait aller les bras et les jambes en même temps, sur le côté. Voilà.
Tu vas plus trop vite.
Pas trop vite. Voilà.
Oh, monsieur Thibault, ça vous donne des ailes, là, Frédéric François.
Allez-y, Charline. Allez, souvenez-vous vos années majorettes.
Ah oui. C'est mieux.
Interception.
Ça va l'équilibre ?
Bonjour.
Ça va, Christophe ?
Le magazine de la rédaction.
On retourne au standard. Je salue Mathieu.
France Inter, Mathieu, le 14 septembre dernier, Agnès Buzyn, ministre de la Santé,
bonjour,
invitée de la matinale.
Mathieu, je suis psychologue clinicien au centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens. Depuis 80 jours, je vois mes collègues tenir un collectif de défense par l'hôpital. Ils dorment et ils vivent jour et nuit devant l'hôpital. Ils demandent à la ministre et à l'ARS des moyens supplémentaires et rien n'est fait depuis 80 jours.
Merci Mathieu. Alors, pour cette intervention. Agnès Buzyn vous répond.
Bonjour monsieur, je sens votre émotion dans la voix et je comprends parce que la psychiatrie française traverse une grosse crise. Elle a des causes multiples. D'abord, un manque d'investissement dans la psychiatrie depuis des dizaines d'années. C'est le parent pauvre de la médecine. Une démographie médicale en baisse, donc il n'y a plus assez de médecins psychiatres. Et donc, une raison à recruter.
Nous sommes juste devant l'entrée de cet hôpital Philippe Pinel, ici à Amiens, avec le docteur Mehmet Matsar, un ancien de Pinel. On vous donne rendez-vous ici, mais vous ne travaillez plus ici depuis le début du mois d'octobre. Pour quelles raisons ?
Alors, c'est principalement en lien avec les conditions de travail qui se sont dégradées en fait depuis que j'ai pris un poste à l'hôpital Philippe Pinel en tant que praticien hospitalier il y a 3 ans. Quand on arrive à des journées où on est amené, du fait des départs des différents médecins qui n'ont pas été remplacés, donc du coup un sous-effectif chronique, on en arrive en fait à avoir une centaine de patients sous sa responsabilité, parfois certains jours. Sur une journée, c'est impossible de les voir tous. On ne peut pas passer par exemple une heure d'entretien avec un patient. On ne peut pas se permettre de faire ça. Donc du coup, forcément, ce premier aspect en fait, du travail auprès du patient, quand on termine la journée, on n'est pas satisfait.
C'est-à-dire le travail d'écoute,
d'échange ? Le travail d'écoute, de soutien, en fait, de diagnostic bien sûr, mais aussi d'explication. Parce que les patients, ils sont en demande d'explication. Par exemple, quand est-ce qu'on va se revoir ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi on va vous proposer ça et pas plutôt ça ? Donc c'est un travail d'explication. Tout ça, ça prend du temps.
Et à la question, quand est-ce qu'on va se revoir ? Qu'est-ce que vous disiez sur vos derniers mois ici ?
Alors, c'est une question en fait à laquelle il est difficile de répondre, mais on essaye de proposer en fait une date en disant aux patients, on se revoit après-demain ou dans 3 jours, et on essaie de s'y tenir. Et je dis bien, on essaye parce qu'en fait...
Et quand on ne peut pas ?
Ce qui est triste en fait, c'est que petit à petit, moi ce que j'ai observé, c'est que les patients faisait preuve en fait d'une certaine forme en fait de tolérance, voire même sur la fin, et ça c'était difficile en fait à accepter quelque part parce que c'était une forme de compassion presque. Il y avait presque une sorte d'inversion de rôle en fait. je sais que vous avez beaucoup de travail, c'est pas grave, on se voit quand vous pouvez, quoi. On se dit que bah finalement en fait on est là en quelque sorte à essayer de faire quelque chose qui a plus vraiment de sens en fait.
Au total, 80% des postes de psychiatres sont vacants ici à l'hôpital Pinel. Ces trois dernières années, 16 médecins ont fait le choix de partir. On va quitter quelques instants le département de la Somme pour faire un crochet par Paris avec vous, Marion Le Boyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle psychiatrie et addictologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil et co-auteur d'un livre qui s'intitule « Psychiatrie, l'état d'urgence ». Est-ce que cette crise est un problème de moyens exclusivement ou d'organisation au sens beaucoup plus large ?
C'est une crise de moyens, mais pas que. Et c'est pas parce qu'on rajoute des moyens sans repenser l'organisation des systèmes que, d'un coup de baguette magique, la crise que traverse la psychiatrie aujourd'hui va s'arranger. On a réellement besoin qu'un système de santé qui a été conçu autour des années 60, autour de l'idée de la psychiatrie de secteur, qui devait faciliter l'accès aux soins du plus grand nombre, est en crise parce qu'elle n'a pas été repensée à l'aune de l'ensemble des innovations qui sont aujourd'hui possibles et qui devraient être offertes à l'ensemble des usagers.
Qu'est-ce qui empêche de repenser la psychiatrie ? C'est quoi les blocages ?
Alors, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique de repenser le système. Il y a 15 ans, on ne se souvient plus qu'il y a eu une action politique extrêmement forte menée par le président de la République de l'époque, qui était Jacques Chirac, pour repenser l'organisation de la prise en charge du cancer et pour créer l'Institut du cancer, qui a eu des missions extrêmement importantes au niveau du soin, pour homogénéiser les référentiels de santé, pour construire des parcours de soins, pour soutenir l'innovation et la recherche, et pour permettre que ces innovations soient accessibles au plus grand nombre. Et aujourd'hui, le résultat sur le plan du cancer est formidable, puisqu'on sait qu'on guérit 2 cancers sur 3. Donc ce que nous demandons dans ce livre, c'est effectivement que le politique s'empare de ce sujet, qu'il y ait une mission interministérielle, qu'il y ait une structure, qu'il s'agisse d'une agence ou d'un institut, comme il y en a dans tous les pays, qui soit là pour repenser l'organisation des soins, pour réduire les inégalités territoriales, et puis pour soutenir l'innovation et la recherche. Parce que dans ce pays, on ne soutient pas suffisamment la recherche en psychiatrie, on ne donne pas de moyens à l'innovation et à la recherche en psychiatrie. Je rappellerai que la psychiatrie ne reçoit que 2% du budget de la recherche biomédicale.
Marion Le Boyer, vous venez de gagner, il y a quelques jours seulement, le prix du livre politique, décerné là dans la section des internautes, donc ça veut dire qu'il y a eu un intérêt pour votre ouvrage que vous avez coécrit avec le professeur Lorca. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
C'est un signe extrêmement fort pour nous que le politique a entendu, que les lecteurs ont entendu, que les internautes ont entendu ce cri, qui est à la fois un cri, encore une fois, d'alarme. Il y a une situation d'urgence, il ne faut pas attendre que les immeubles s'effondrent comme à Marseille pour faire quelque chose. Donc maintenant, j'espère qu'on va se mettre en marche avec les décideurs de ce pays pour essayer de repenser et de changer et d'améliorer la situation.
Nous sommes devant les locaux de l'UNAFAM, c'est l'association de familles des malades. C'est un local assez difficile d'accès ici dans cet immense parc et on va rencontrer les gens de cette association.
Alors, Raphaël, ce samedi-là, on a une conférence qui s'est mise en place. Mm-hmm. Tu sais ? Alors, moi, je serai sur Amiens. Par contre, toi, tu peux aller à Péronne avec Silio.
D'accord.
D'accord ?
Ok.
Ben, je m'appelle Sébastien Bill, je suis le président délégué de l'UNAFAM de la Somme et je m'occupe aussi de l'UNAFAM Hauts-de-France. Et surtout, voilà, ce qui prend quand même beaucoup de mon temps, je m'occupe de mon frère qui est atteint de schizophrénie.
C'est la difficulté et peut-être le drame de la psychiatrie. On parle d'eux, les malades, sans les entendre, hein, pour des raisons évidentes. La survie est quotidienne, hein, quasiment pour ces malades-là. Vous êtes leur porte-parole, vous, les familles ?
Oui, oui. Alors, mon frère, il est atteint de schizophrénie. Il mène un combat depuis longtemps contre cette pathologie qui est vraiment invalidante. Et moi, je suis sa voix. Mon frère souffre, moi je souffre. Je souffre de le voir souffrir, tout simplement.
C'est quoi, selon vous, des soins à la hauteur de sa pathologie.
Ben, ce serait oui, ce serait une visite par jour, ce serait parfois même plus. Quand il est vraiment dans un jour où il est très angoissé, il va peut-être falloir 3 ou 4 visites. Mon frère, il est handicapé psychique à plus de 80%. Et quand je dis des visites, mais en passant quand même du temps. C'est vrai qu'en psychiatrie, ben, c'est l'humain.
Qu'est-ce qui explique selon vous que la psychiatrie passe autant à l'as dans le plan santé, par exemple, qui a été présenté récemment? Nationalement, il y a une crise de la psychiatrie. Pour quelles raisons particulièrement selon vous?
Bah déjà, les personnes en situation de handicap psychique sont quand même beaucoup stigmatisées.
Et on ne les voit pas. Soit elles sont à l'hôpital, voilà. Ça nous est interdit d'accès, soit elles sont à la maison, cloîtrées parce que bouffées par l'angoisse.
Elles sont à l'hôpital, elles sont à la maison, ce sont des personnes qui sont invisibles, ce sont des personnes qui ne peuvent pas faire entendre tout simplement leur voix. Donc c'est vrai qu'on se demande comment on va pouvoir sortir de cette situation qui est une situation quand même dramatique. La psychiatrie, c'est quand même énormément, énormément de souffrance. C'est un parcours du combattant. Nous, la maladie, ça ne se traite pas en 1, 2 ou 3 ans. On est sur 10, 15 ans. Pour amener mon frère, pour qu'aujourd'hui, il ait un semblant de vie, on va dire ça, parce que je ne suis pas sûr que ce... Voilà, mais ça a mis quoi? 12, 13 ans. C'est-à-dire qu'on est sur des périodes très, très longues. Donc, il faut que les familles, elles tiennent.
Abdel ?
Ouais, c'est Abdel, ouais.
Bonjour.
Ça va, vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Ça va, merci.
Merci, Abdel. Tu vas bien ?
Ça va, c'est bon.
Ouais,
c'est bien. Oui, ça va. Ça va, merci.
Bon.
Ouais.
Nous sommes avec Abdel, qui vient très régulièrement ici à Pinel pour visiter son fils, Mohamed, qui a 22 ans. Je vais résumer très rapidement l'histoire de Mohamed, schizophrène, qui a été hospitalisé une première fois en UMD à Rouen. UMD, ça veut dire unité pour malades difficiles, parce qu'il a agressé sauvagement un infirmier à domicile. Il est ressorti de l'UMD, ça allait pas mal, et puis il y a eu à nouveau une bouffée délirante qui l'a conduit ici à Pinel. Il n'est pas en UMD à Pinel, il est dans une unité normale.
Normale, oui. Et puis ça fait presque plus d'un an qu'il est hospitalisé à l'hôpital philippine. Il m'explique des fois qu'ils sont par exemple à 3 par chambre et tout. Je trouve ça désolant. Par exemple, dans les hôpitaux normaux, il y a 2 par chambre. Pourquoi dans les hôpitaux psychiatriques, il y a 3 par chambre et des fois 4 par chambre? Pourquoi? Parce que c'est des personnes fous, parce que c'est des personnes vulnérables. Et ça me désole. Le jour où j'ai appris que mon fils il est malade, vous savez, il y a la famille qui part, les amis vous laissent. Et vous vous retrouvez tout seul. Et grâce à des associations comme les NAFAM, maintenant je peux compter sur eux. Et grâce à ces gens-là qu'on a pu, sortir un petit peu de l'isolement et tout, j'ai appris c'est quoi la maladie, j'ai appris les symptômes, quand je dois la ramener à l'hôpital. Ça m'aide beaucoup pour gérer la maladie de mon fils et gérer ma propre famille suite à ce diagnostic.
Abdel, aujourd'hui, quel mot vous pouvez utiliser pour parler de la prise en charge de Mohamed ici? A priori, c'est pas le mot humain. Quel mot vous choisiriez?
Ces personnes, ils sont enfermées, ils prennent des soins qui sont très lourds. Moi, mon fils, ils prennent un traitement très lourd, des neuroleptiques très lourds. Je vous explique juste une chose. Moi, mon fils, quand il sort chez moi, il y a moi et sa mère. On est 2 personnes sur lui et on n'arrive pas à gérer le quotidien. Imaginez 2 à 3 infirmiers pour 22 ou 23 patients. Il faut juste faire cette équation-là.
Quand vous entendez le témoignage des infirmiers, de tout le personnel soignant, raconter tout ce qu'ils vous racontent à longueur de journée, on n'est pas assez nombreux, c'est plus notre métier, c'est autre chose. Ça vous Vous inspire quoi ? Pas de colère, ça j'en suis sûre. Vous êtes en face de moi, je vois bien qu'il n'y a pas de colère. C'est quoi le sentiment ?
C'est de l'injustice. Déjà, nous, en tant que famille, la maladie, on l'a trouvée injuste. Pour nous, déjà, quand on apprend une maladie comme ça qui touche un de nos proches, on dit que la vérité est injuste. Et deuxièmement, quand on suit le parcours de soins et quand on entend des choses, par exemple, qu'il y a 4 personnes psychotiques qui partagent, par exemple, une chambre comme ça qui est faite pour 2 personnes ou pour une personne, on dit aussi que c'est injuste. Et c'est ça, c'est le mot injustice. J'aimerais bien que ce mot-là, ça se répare et que ça deviendra le mot justice. J'espère bien de tout mon cœur.
L'avenir de la psychiatrie concerne potentiellement toutes les familles. Les troubles psychiatriques sont la première cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt de travail en France. Mon hôpital psy va craquer, c'était un reportage de Vanessa Descoureaux.
Merci encore Abdel.
Réalisation Violaine Ballet, assistée d'Élise Amchin. Mixage Vincent Godard. Une émission à retrouver sur le site franceinter.fr. À la semaine prochaine.